Je m'appelle Patrick Picard, je viens de l'étage du dessus, je travaille au centre Alain Savary qui fait partie de la même entité que mes collègues de la formation. J'ai été instituteur pendant un grand nombre d'années, ma première classe c'était en 1978, ça ne nous rajeunit pas. Et j'ai eu un parcours personnel qui fait que je m'intéresse dans le cadre du centre Alain Savary, essentiellement à deux choses. Comment faire réussir les élèves pauvres et immigrés dans un système éducatif qui est plus que reproduisant les inégalités sociales. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est comment aider les enseignants à travailler. Et pour cela, j'essaye de travailler les questions de l'analyse du travail. On va y revenir. Ce que j'ai prévu de faire, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire entre l'objet que souhaite le commanditaire de l'intervention et ce qu'a envie de faire le prestataire de l'intervention, il peut y avoir un premier hiatus. Donc j'ai essayé de venir ce matin comprendre dans quelle logique de travail vous étiez, voir très vite qui vous étiez et très parcellairement. Mais ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est en quoi... puisque vous êtes dans un stage de formation de formateur, en quoi l'analyse du travail peut être une ressource pour la formation. Donc, je vous présenterai assez rapidement mes cadres théoriques, et puis je vais essayer d'illustrer ce que je vais vous dire à partir du cas d'une vraie formation que j'ai menée, que je mène actuellement. Donc, ça vous donnera quelques éléments. Donc effectivement, ce qui structure mon intervention, c'est autour de ces choses-là. Donc j'essaye en général de pas redire ce que j'ai écrit dans les diapositives. Donc vous choisissez la modalité qui vous est la plus familière. Peut-être ce qui va vous surprendre dans ma manière de travailler, c'est que lorsqu'on convoque l'analyse du travail, c'est regarder le métier de l'enseignement, le métier de la formation, comme des métiers ordinaires. Je vais essayer d'y revenir, et notamment penser que cette activité de l'enseignant, elle est construite dans des normes professionnelles, des normes au sens de Schwartz pour les gens qui sont coutumiers de ça, c'est-à-dire des manières de faire qui viennent certes de l'histoire des personnes, mais aussi de l'histoire des métiers. Et que lorsqu'on travaille, on travaille toujours donc selon des normes, avec des destinataires, c'est-à-dire que ce que je fais cet après-midi en direction d'un public que j'ai identifié n'est pas la même chose que ce que je ferais dans le même lieu avec un autre public, et que donc mon activité, comme la vôtre, elle est adressée. Et donc je suis censé être avec vous dans une sorte de triangle, je le dis comme ça, dans lequel il y a ce que j'ai envie de faire, il y a vous, et puis il y a l'objet qu'on partage ensemble, ou qu'on partage pas, sur lequel il faudrait qu'on partage quand même un peu des choses pour pouvoir travailler, parce que travailler, c'est travailler avec des gens. Et du coup, dans le point de vue de l'analyse du travail dans lequel je suis, c'est je ne peux pas arriver au but de mon activité sans passer par vous. Je ne peux pas arriver à vous, dans le contexte dans lequel nous sommes, sans passer par l'activité qui nous réunit. On a quelque chose à faire ici ensemble, en tant que des personnes qui travaillent, qu'on soit dans une situation de travail ou dans une situation de formation, ça peut être relativement identique. Alors, les différentes entrées de l'analyse du travail à partir desquelles je parle, je vous les détaille là, je les indique pour mémoire, et il est légitime que, en venant dans une formation de formateur, vous ne connaissiez pas certaines de ces références, et ça va pas nous empêcher du tout de travailler. Mais si je me permets d'afficher cette liste, c'est parce que souvent on indique des mots dans les conversations, même professionnelles, et ensuite on ne sait plus trop ce que veulent dire les mots. Et tout à l'heure, mon collègue Guillaume me faisait une petite blague avec le mot analyse de pratique, et personnellement, je n'utilise pas le mot analyse de pratique, mais c'est pas grave. En soi, ce qui compte dans les mots, c'est ce qu'on met derrière, sur lesquels on est d'accord. J'essaierai d'y revenir. Mais en tout cas, le mot analyse de pratique, il est utilisé dans les cadres de formation par des gens qui se raccrochent à ces différentes entrées théoriques. Et lorsqu'on parle de certaines choses dans tel ou tel cadre théorique, on ne parle pas de la même chose. Ça n'est pas grave. Encore faut-il le savoir si on veut éviter les malentendus. Exemple. Si on est avec quelqu'un qui est dans une référence de type Thoreau ou de type Vermeersch, peut-être vous avez entendu parler d'un certain nombre de techniques chez Vermeersch, comme l'entretien d'explicitation, eh bien alors on va faire des choses, conduire des entretiens avec des personnes qui vont avoir l'air de ressembler à d'autres choses, mais qui en fait ne sont pas du tout la même chose. C'est pas parce que je conduis un entretien avec une personne que je sais quelque chose sur la nature des interactions qui existent dans cet entretien. Alors, ça, c'est des bricolages de recherche. Bien sûr que pour être formateur, on n'a pas besoin de maîtriser, escaliter tous ces cadres conceptuels. L'intérêt de ce qu'on fait ici, c'est d'avoir un tout petit point de recul qui vont nous permettre, j'espère, de peut-être voir où il peut y avoir des objets de controverse entre ces différentes théories. Mais ce qui est au cœur de ces différentes théories, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, trois choses. Qu'est-ce que c'est que le sujet? Qu'est-ce que c'est que le social? Et qu'est-ce que c'est que les instruments? Et je vais me permettre de tourner autour de la question des cartes mentales sur lesquelles vous avez travaillé. Et je remercie le collègue qui a fait l'intervention ce matin. J'ai pas pu voir ce qu'a fait François, mais on se connaît un tout petit peu, donc je pense avoir une idée de ce qu'il a fait avec vous. Et j'ai essayé donc de tisser mon intervention autour de ça, pour qu'on soit dans la continuité. C'est ma première manière d'adresser mon discours. Et évidemment, la question de l'utilisation des cartes mentales ou des logiciels de mind mapping, elle va dépendre profondément de ce qu'on a comme conception de ce qu'est le sujet, de ce qu'est le social et de ce qu'est un instrument. Donc, vous verrez dans les exemples, alors quand je dis exemple, c'est au sens d'illustration, non pas de marche à suivre, comment j'utilise certains outils et j'espère que du coup, ça nous nourrira une discussion. Alors, le cadre dans lequel je suis, je vais essayer de le définir selon une diapositive que j'aime bien, que je mets dans toutes mes présentations, et donc je m'excuse pour ceux avec qui on a déjà travaillé. Si vous avez travaillé trois fois avec moi, vous avez déjà vu trois fois cette diapositive. Le modèle de l'activité, pour moi, de l'activité au sens, c'est ce qu'on est en train de faire. On essaie de comprendre ce que les personnes font lorsqu'elles travaillent. Ce que vous faites, vous, en ce moment, ce que je fais, moi, en ce moment, ce que fait la dame qui est à l'accueil, ce que fait le monsieur qui est dans le jardin, ou la dame, j'en sais rien. L'activité professionnelle, c'est quelque chose qui oscille entre deux pôles, ce qu'on me demande de faire, et ce que moi, qui travaille, ça me demande pour le faire. Et du coup, lorsque j'ai à faire quelque chose, il va falloir que j'arbitre entre un espèce de conflit de logique qui est normal, légitime, régulier, ordinaire, partagé, et non pas rare, clandestin et réservé aux gens incompétents. Et donc, pour travailler, il faut faire des compromis. Des compromis entre ce qu'on nous demande et ce que ça nous demande. Et il faut que ces compromis soient opératoires. On va voir après comment. Mais en tout cas, dans ces compromis, la part de l'action, la part de l'activité qui se voit, ça s'appelle l'action. C'est-à-dire, en ce moment, vous me voyez faire quelque chose, je vous vois faire des choses, je ne sais pas ceux qui, parmi vous, sont en train de faire leur mail, de penser à autre chose, de discuter. Vous savez, les nouveaux instruments, ils permettent des doubles tâches qui sont assez passionnantes. Moi, ça m'arrive assez souvent de faire mes mails pendant les conférences. Et ça ne dit rien de mon activité. Mais en tout cas, entre l'activité et l'action, vous voyez, c'est la différence, c'est la face émergée de l'iceberg qui est beaucoup plus compliquée. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'activité, c'est que ça va engager beaucoup de choses chez la personne. J'essaierai d'y revenir après. Et du coup, en tout cas, cette activité de la personne, pour qu'on développe autre chose que de la souffrance au travail, il faut qu'on développe de l'efficacité, dans deux sens du terme, de l'efficacité objective, Est-ce que ce que je fais est jugé efficace par mon commanditaire, Monsieur Guillot? Est-ce qu'à la fin, il va bien me payer mon intervention comme il me l'a promis? Et donc, il ne me la paiera que s'il juge que mon travail est évalué favorablement par son service. Mais à l'inverse, il va falloir que mon intervention, elle ait aussi une efficacité subjective. C'est-à-dire que quand je vais partir d'avec vous, que je puisse me dire, est-ce que ce groupe m'a considéré comme un débile profond? Est-ce qu'au contraire, ils ont été subjugués par la force de ma parole? Est-ce que ça va renforcer mon narcissisme personnel, etc.? Et donc, du coup, cette efficacité subjective et objective, c'est les conditions du ce que j'appelle dans mon jargon le développement au travail. Et du coup, je vais donc donner une fonction à la formation dans ce schéma. La formation, c'est ce qui permet aux gens de considérer que le compromis qu'ils faisaient dans l'instant T n'est pas forcément le compromis qu'ils vont faire toute leur vie et qu'à l'instant T plus 1, T plus 2, T plus 3, il y a peut-être d'autres compromis possibles qui font qu'ils auront un peu plus de sentiment d'efficacité au travail et qui vont faire de leur métier un objet de santé professionnelle. Donc, à 14h17, la question qui se pose pour moi, sur laquelle je vais vous emmener à partir de mon exemple, c'est, si on est formateur, comment est-ce qu'on s'intéresse aux questions du développement de l'activité professionnelle? Comment on aide les gens à bouger leurs compromis? Et comment, du coup, on conçoit des dispositifs, puisque travailler, c'est construire des dispositifs, hein. Un PowerPoint, c'est un diapositif, un dispositif, un travail de groupe, toutes les formes de travail qu'on connaît, qui vont permettre de nourrir ce qu'on appelle en analyse du travail cette structure dynamique qui va être le moteur de l'activité. Si j'avais le temps, je vous parlerais de ce que c'est dans la psychologie du XXe siècle, depuis Vygotsky et la suite, ce que c'est que les buts, les mobiles, etc. Bon, tout ça, ça nous emmènerait un petit peu plus loin, mais si j'illustre, comment comprendre que certaines personnes comprennent certaines situations comme étant des situations extrêmement angoissantes quand d'autres, au contraire, y trouvent du développement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui continuent à aller enseigner en ZEP dans des conditions difficiles, alors que des gens cherchent absolument à en fuir? Eh bien, c'est parce que les buts qu'ils poursuivent dans leur travail dans ces contextes difficiles sont différents. Et du coup, la question de la modification des buts, au-delà de la modification des pratiques, c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Donc, cette dimension de la recherche qui travaille sur le travail, elle a des techniques qu'elle utilise, et ces techniques, je vous les présente très rapidement, c'est premièrement de recueillir des situations de travail S-qualité, soit par des vidéos, soit par d'autres techniques, soit par un certain nombre de manières de faire, je vais pas rentrer là-dedans, qui vont permettre de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, globalement. Mais très souvent, lorsque on voit les images du travail, ça ne nous permet pas de comprendre le travail. Parce que je ne vois que la face émergée de l'iceberg. Je vois que ce que les gens font, mais je ne vois pas ce qui est leur activité bien plus profond que ce qu'ils font. D'ailleurs, on voit quand on filme les gens et qu'on conduit des entretiens avec eux après, que ces personnes peuvent très bien avoir eu une activité, enfin une action qu'on va considérer comme de tel ou tel type, et puis ils vont avoir sur cette activité-là des jugements, des opinions bien plus complexes que ce qu'on pourrait le croire si on ne leur laissait pas la parole pendant des heures pour essayer de le construire. Et du coup, on peut imaginez, c'est ce que font un certain nombre de laboratoires avec nous sur cette question-là, notamment dans le développement d'un outil qu'on a créé qui s'appelle Neopass Action. On peut essayer de comprendre en quoi l'appui sur l'activité réelle, ça peut être un outil pour la formation, pour créer des instruments de formation. Mais c'est pas mon objet aujourd'hui, je vais pas en parler, sauf si on me harcèle pour ça. En tout cas, ces techniques en formation qui permettent de parler du travail peuvent être des techniques qui sont utilisées non plus en recherche mais en formation, et vous avez là une image d'un module de formation qui a été des modules que j'ai construits régulièrement lorsque je travaillais dans une dans un rectorat, dans une DAFOP qui construit de l'ingénierie de formation, dans laquelle on essayait de construire des modules de formation à partir de l'activité réelle des personnes. Donc, vous voyez l'idée, hein, c'est-à-dire qu'on va filmer les personnes, on construit avec elles des entretiens, soit des entretiens dits simples, soit des entretiens dits croisés, comme vous le voyez sur la diapo, où vous voyez en fait quoi ? Vous voyez une enseignante de PS et une enseignante d'histoire-géographie qui discutent de l'activité, de l'action, de la séance d'une autre enseignante. Et je n'ai pas le temps de vous en parler là, mais si on vous montrait ces entretiens, vous verriez à quel point l'entretien croisé entre ces deux professeurs qui se connaissent parfaitement mais qui ne se sont jamais vus travailler permet de mettre à jour un certain nombre de discussions sur « mais alors c'est dingue toi, tu fais comme ça ?» En EPS, t'as des gamins qui font des choses différentes dans quatre ateliers et comment ça se... Enfin, je vous le passe, mais cette confrontation croisée que vous voyez qu'on filme, qu'on enregistre, etc., peut être une ressource importante pour la formation. Alors, je vais maintenant descendre dans un cas concret, comme ça, ça nous permettra de discuter sur des exemples concrets, et je vais essayer de parler non seulement des problèmes de métier, mais aussi des problèmes de formateurs, parce que construire des formations à partir de l'analyse du travail, c'est forcément parler des problèmes de travail des formateurs. Et dans un certain nombre de formations que nous organisons, ici ou là, dans les rectorats ou dans les structures de formation académique, on travaille de plus en plus sur les problèmes professionnels des formateurs, à qui on demande d'accompagner des personnes, mais qui eux-mêmes sont bien peu accompagnés sur leurs propres problèmes professionnels. Exemple. Donc je rencontre un inspecteur d'académie dans une réunion institutionnelle et qui me dit « Ah tu sais, je me rappelle, l'année dernière j'avais vu ta conférence, machin, c'était bien, faudrait que tu reviennes. Et d'ailleurs, cette année, voilà, tu vois, on a prévu vachement de formations. Ouais, parce que les inspecteurs d'académie, en fait, dans le privé, ils parlent normalement. Hein. Et donc, ils disent, voilà, on a une formation là-dessus, une autre formation là-dessus, une autre formation là-dessus. Est-ce que tu connais des gens ? Faudrait que tu nous trouves des formateurs. Faudrait que tu nous trouves des gens qui, etc. Et d'ailleurs, toi, je voudrais bien que tu viennes pour un séminaire académique sur, alors je voulais surligner en gras, l'évolution du rapport au savoir des élèves et les incidences pédagogiques. Et là, je lui dis, ça, je m'excuse, mais je vais pas savoir faire du tout. Parce que ça, c'est beaucoup trop compliqué pour que je vienne faire je sais pas quelle conférence à des personnes. Et donc, je me mets à engager une discussion avec ce que, donc, dans la langue de la formation, on appelle le prescripteur de la formation, celui qui l'organise, pour lui dire, bon, ce que vous voulez faire exactement, c'est quoi ? Voilà, j'ai des maîtres surnuméraires dans ma ZEP, des maîtres en plus, et puis je sais pas trop à quoi ils servent. Et je voudrais bien savoir à quoi ils servent, parce que j'ai bien quelques idées, mais je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'expliquer un truc sur à quoi ça sert, des maîtres surnuméraires, et puis qui les cadre un bon coup sur ce qui est bien, ce qui est efficace, ce qui est pas efficace dans l'intervention du maître surnuméraire, parce que tu comprends, il y en a, ils travaillent en petits groupes, il y en a, ils travaillent en co-intervention, mais on sait pas ce qui est efficace et tout, et il faudrait bien qu'on norme tout ça, qu'on norme. Là où il a raison, c'est que son problème professionnel, c'est-à-dire... rompre avec la structure traditionnelle de l'enseignement, un maître, une classe, installer des structures différentes, ça modifie le travail. Et comme ça modifie le travail, ça va le renormer. Et que donc, il faut s'en occuper. Parce que travailler à deux, c'est pas la même chose que travailler tout seul. Et qu'il suffit pas de mettre des maîtres surnuméraires dans une classe pour qu'il se passe des choses. Voire même, il peut se passer des choses compliquées. Et donc, il a raison de dire, il faut que j'organise une formation là-dessus. Et mon boulot de formateur, je sais pas, mais en tout cas de répondre, de celui qui répond à la demande, ça va être de discuter son objectif, mais discuter aussi sa modalité. Et du coup, je lui dis, non, mais ça, tu comprends, c'est impossible. Et on se met à discuter pendant un petit moment sur ce qu'il connaît, de la situation, etc., etc. Je vous passe les détails, mais voilà la proposition qu'il m'envoie une semaine plus tard. C'est pour moi la trace de ce qu'il a attrapé de notre discussion. C'est-à-dire, Je veux bien qu'on organise une formation sur les maîtres surnuméraires, mais il me semble que du coup, il faut qu'on mette dans le coup tes formateurs, tes conseillers pédagogiques, les IEN qui bossent sur la circo parce que c'est dans un endroit difficile. Et puis, il faut qu'on travaille là-dessus parce que sinon, s'il y a quelqu'un d'extérieur qui vient faire une formation là-dessus, ça va pas être très profitable. Et du coup, il accepte de modifier sa demande avec une formation de formateurs qu'on va organiser préalablement dans laquelle on va mettre les équipes de circo, quelques maîtres surnuméraires, des directeurs d'école, une petite équipe qui va un peu piloter la formation. Et du coup, on commence à reconfigurer la formation à partir du travail réel, en disant, premier moment, il va y avoir ce temps-là. Deuxième moment, on va aller voir dans les classes concrètement comment ça se passe, ce travail en co-intervention. On va travailler à analyser ces productions-là. Et puis, à partir de cela, ben, on verra si on peut en faire des outils pour la formation, des extraits, des ressources, des choses qu'on pourra mettre sur un site internet, etc. Et du coup, voilà comment le but est réorganisé pour lui. Je parle bien du pilote. Pour l'instant, les instituts, ils savent même pas qu'il va y avoir une formation. Mais la formation a déjà commencé dans ma tête à moi. C'est-à-dire que il va reconfigurer ce qu'il avait prévu comme composante initiale avec, vous voyez ce qui est écrit là. Il a maintenant la formulation en bleu, ainsi est-il important. Donc c'est son texte, hein, c'est le texte du prescripteur. De se questionner sur l'apport de ses enseignants dans l'élaboration de l'offre d'enseignement facilitant l'acquisition des compétences du socle commun par les élèves. C'est-à-dire qu'il a mis noir sur blanc ce qu'il veut vraiment. Mais du coup, vous vous rendez bien compte que puisque vous êtes formateur, imaginez que vous assistiez à la réunion de formation de formateurs qu'on va monter préalablement à la formation. On passe 2 heures à avoir un lot de questions et de préoccupations de formateurs de ce type-là. Des formateurs qui commencent à dire « Non mais attends, on monte une formation et on sait pas où on va ?» On va filmer des collègues qui vont faire du bon boulot, mais ceux qui vont faire du boulot pas bon et dont on va avoir les images, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Et si jamais les enseignants ils nous disent que ça va pas du tout le pilotage du projet, comment on va se débrouiller? Et puis moi, tu me dis qu'il faut que je conduise des entretiens, mais je sais pas du tout conduire des entretiens. Alors moi, la formation des formateurs, je leur fais mon petit couplet sur l'analyse du travail, je leur remonte le schéma qui va bien, que je fais toujours sur l'analyse de l'activité. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on pourrait faire qu'avec les formateurs, on se mette d'accord sur qu'est-ce que ça serait analyser une pratique professionnelle, non pas avec un point de vue de didacticien, vous savez, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas coutumiers de l'éducation nationale, mais dans l'éducation nationale, en général, on se préoccupe de plusieurs choses. On se préoccupe du savoir, des élèves et des enseignants. Et il y a un côté qui regarde ce qui se passe dans la question du rapport au savoir des élèves, de la transmission du savoir, ça s'appelle la didactique. Encore que c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, voilà, ce qui se passe quand les élèves apprennent. Et donc, quand on est formateur, on essaye surtout de mettre en place des situations dans lesquelles les élèves apprennent bien. Donc, des situations qui soient efficaces pour qu'on apprenne. Donc, vous voyez, on regarde beaucoup de ce côté-là du triangle. Et dans mon modèle, c'est un peu embêtant parce qu'il faut d'abord s'occuper de pourquoi l'enseignant fait ce qu'il fait. Peut-être que c'est pas bien didactiquement ce qu'il fait, mais peut-être qu'il a des bonnes raisons de le faire. Si j'ai le temps tout à l'heure, je vous montrerai des vraies vidéos qui le montrent. Et du coup, les enseignants formateurs, ils sont en difficulté pour être sur les 3 niveaux de ce pôle. Donc du coup, je vous montre là quelque chose qui ne vaut rien d'autre que c'est le fruit de ce qu'on a fait après une demi-journée de travail avec des formateurs sur, finalement, ça serait quoi notre posture de formateur pour analyser les pratiques professionnelles. Donc, ils ont fait une référence en 7 points où ils ont dit, ben, peut-être que c'est d'abord passer plus de temps à décrire qu'à commencer à imaginer pourquoi c'est. Deuxièmement, si on cherche à interpréter, comme on fait tous, quand on voit quelqu'un qui travaille, on cherche tous à se dire, mais pourquoi il fait ce qu'il fait? Mais essayez de le penser d'abord à qu'est-ce qui a pu le conduire à agir ainsi, avec une posture empathique, plutôt que comment ça se fait qu'il est aussi débile. Et donc postuler a priori que s'il fait quelque chose, c'est qu'il a sans doute une bonne raison de le faire. Identifier les fondements, identifier la cohérence. Et puis, forcément, ça va coincer avec sa propre façon de voir les choses, et donc essayer de se dire, où est-ce qu'il y a des conflits de critères? Où est-ce qu'il y a des conflits de qualité? Pourquoi est-ce que je pense pas la même chose que ce collègue-là? J'y reviendrai sur les conflits de critères. Se dire, si j'avais l'idée de lui dire tu pourrais faire autrement, à quelles conditions il pourrait faire quelque chose d'autrement, et voire même, qu'est-ce qu'il aurait à gagner ou à perdre à faire autrement? Et enfin, essayer soi-même d'argumenter son raisonnement à lui. Alors, ce modèle-là n'a rien de scientifique, c'est juste un modèle qui a été fait par des formateurs comme vous-même, à qui on dit, mais au fait, c'est quoi analyser le travail d'un professionnel qui est face à soi? Bien. Je reviens à mon calendrier. Et donc, du coup, on tombe d'accord avec les équipes de circonscription, les enseignants surnuméraires, les directeurs, etc., au calendrier suivant. Il va donc falloir qu'on prépare la première séance de travail avec les maîtres surnuméraires qui, jusqu'à présent, n'ont rien vu de tout ça. On est avant le début de la formation pour les vraies personnes. Du coup, il va falloir qu'en tant que formateur, on se donne des outils pour se dire, mais comment est-ce qu'on va parler du vrai travail? On vient en formation, il y aura l'inspecteur, il y aura des formateurs, il y aura je sais pas qui. Est-ce que c'est un endroit où je vais vraiment parler du vrai travail, ou est-ce que je vais juste faire semblant que tout va bien, ou surtout que je fais bien ce que le formateur voudrait que je fasse? Et du coup, là, moi, il y a un petit outil que j'utilise, qui vaut ce qui vaut. C'est un petit questionnaire anonyme où on demande aux gens, plutôt que de passer une heure à faire un tour de table, dites-nous voir sur les questions qui vous occupent, donc ici sur les maîtres surnuméraires dans l'enseignement du lire-écrire au CPC1, dites-nous ce que vous faites, dites-nous comment ça se passe, est-ce que vous intervenez, où est-ce que vous vous sentez à l'aise, où est-ce que vous vous sentez pas à l'aise, donnez un exemple de votre pratique qui vous semble plutôt pertinent, à l'inverse, qu'est-ce qui vous pose problème, etc. Et on garantit à ces personnes-là que le questionnaire sera totalement anonyme, bien sûr, dans l'espoir que ça commence à libérer un peu la parole. Du coup, le boulot du formateur avant la formation, ça va être de récupérer ces données-là. Là encore, si on fait comme François Bocquet, on a des outils pour ça. Il y a beaucoup de facilités maintenant pour faire ce genre de travail avec des outils simples, à travers des documents en ligne, enfin, etc. Si vous voulez, je vous indiquerai des modèles, mais c'est pas forcément le but. Et donc, du coup, ce recueil-là que je vous montre, ça va être l'objet du premier travail qu'on va mener avec les collègues, qui va être de dire, ben, finalement, voilà tout ce que les uns et les autres qui sommes ici, voilà ce qu'on pense des questions qui sont les questions de la formation. En quoi le maître surnuméraire, ça aide les élèves à apprendre? Et puis, on va organiser un travail collectif, mais d'abord individuel, sur cette question-là. Est-ce que on pourrait mettre de l'ordre dans ce FATRA? Vous avez 40 maîtres surnuméraires qui sont à la formation. Sur les 40, il y en a 20 qui ont répondu au questionnaire. Vous avez un corpus de 20. Ça vous fait globalement 6 feuilles à 4 que vous distribuez aux gens. Et vous dites, voilà le corpus de tout ce que vous avez dit. Je n'y ai pas retravaillé. Et il va falloir qu'on le fasse ensemble. Individuellement, puis collectivement. Et là, miracle de la technique, j'utilise personnellement beaucoup les cartes heuristiques dans cette seconde phase. Parce que ça me semble, pour le coup, un outil particulièrement efficace. Est-ce que vous le voyez là? Non, vous le voyez pas. Donc, pour travailler ces questions-là. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que chaque individu ou chaque petit groupe va expliquer ce qu'il a compris des problèmes professionnels qu'il y avait dans les questionnaires, on va pouvoir organiser, d'accord? Et vous avez bien compris la force des cartes heuristiques là-dessus, c'est-à-dire que, au fur et à mesure de la discussion qu'on va conduire, on va pouvoir modifier l'organisation des choses et faire que, sous les yeux ébahis de la salle, la mise en forme de la discussion professionnelle qu'on essaie de conduire prenne forme. Et donc, pour moi, par exemple, pour reprendre la discussion qu'on avait ce matin, pour peu que ça soit une technologie qu'en tant que formateur, j'arrive à utiliser en temps réel, parce que conduire la discussion du groupe, scénariser, etc., évidemment, ça va être très compliqué. Donc là, il va y avoir des artefacts, des trucs de métier qu'un formateur va pouvoir utiliser en disant « Je sais que monsieur machin qui est là-bas est un très grand connaisseur des cartes heuristiques, et au fur et à mesure de l'avancée de notre discussion, il va essayer de scénariser ce qu'on est en train de faire pendant que je ferai l'animation du groupe. Ou à l'inverse, je vais faire la scénarisation, mais pendant ce temps-là, madame machin va faire l'animation de la discussion du groupe. » Vous savez, c'est des enseignants, en général, ils savent gérer une discussion si on leur dit « on a un quart d'heure pour parler de ça ». Et donc, du coup, ce qui est assez intéressant pour moi, c'est que cette organisation-là, elle va nous permettre progressivement de comprendre quoi. Parce que c'était une discussion qui m'a beaucoup intéressé ce matin, c'est pour ça que j'ai décidé de refaire ma présentation dans ce sens-là. C'est de comprendre que derrière la singularité des sujets, chacun des personnes est un sujet. Chacune des personnes qui sont là est un sujet. Et pourtant, ces sujets qui sont là ont des problèmes professionnels. Des problèmes professionnels communs, qu'ils règlent en faisant des arbitrages différents. Et pour moi, vous vous rappelez de mon graphique, hein, c'est ça la formation. Donc du coup, l'intérêt de logiciels aussi comme XMind, c'est que je vais pouvoir, à l'issue de la formation, une fois qu'on aura fait ce travail de brainstorming, réorganiser mon travail, parce que XMind le permet très facilement, et je vais dire aux gens, bon, le brainstorming de notre discussion de ce matin, on le mettra sur le site, ou on le mettra dans la liste de listes, ou on le mettra dans le blog partagé, etc. Et ça fera la mémoire de ce temps 1 de notre travail. Mais évidemment, vous voyez bien que là, vous voyez rien. C'est-à-dire que la complexité de ce travail-là, elle est valable pour les gens qui ont participé à l'élaboration et au travail. Est-ce que ça a une vocation à aller en dehors de ce groupe-là? Je suis pas sûr. En tout cas, personnellement, je ne l'utilise pas dans d'autres contextes. Sauf à dire, une autre technique de formateur, j'ai travaillé cette même question avec un autre public sur la même question, voilà ce que l'autre public a fait. Regardez ce qui est pareil, pas pareil que vous. Et là, ça peut avoir un intérêt. Donc, ce qu'on va faire dans les activités collectives de formation, c'est qu'on va essayer donc de sémiotiser, de faire du langage commun à partir de choses qui sont dans notre tête. Quand on demande à des enseignants, mais pourquoi vous faites comme ça? En général, les gens disent, je fais comme je peux, merci. Et là, on essaye de faire du langage et de mettre en scène ces problèmes professionnels. Alors, des exemples de sémiotisation, il y en a plein. J'ai sorti juste ceux qu'on a utilisés dans cette formation. Ils n'ont pas de vocation. Par exemple, à partir de ce premier travail-là, on s'est aperçu que les maîtres surnuméraires travaillaient pas du tout la même chose dans les classes. Et donc, on a décidé de faire un tableau. Chaque petit rond vert, c'est un maître surnuméraire. Ils sont identifiés par une lettre qui les anonyme, qui travaille sur qui sur la production d'écrits, qui sur la poésie, qui... Et là, on s'aperçoit que il y a certaines composantes de l'activité qui sont très partagées. Par exemple, tous les maîtres surnuméraires font de la production d'écrits, de la phonologie, de la compréhension, de la culture de l'écrit. Enfin, en tout cas, beaucoup. Par contre, peu font de la poésie, peu font du graphisme. Vous voyez, enfin, et du coup, ça nous permet d'organiser progressivement qu'est-ce qui, pour ces personnes-là, est un problème professionnel partagé ou pas. Et dans le « ou pas », ça ne veut pas dire que sous prétexte qu'il est minoritaire, on va le mettre à la poubelle. Mais on va scénariser sur des artefacts Ça sert à ça, les tableaux, les listes, etc. Hein, voir ce qu'on sait aujourd'hui sur la place de la langue écrite et de la littératie dans le développement. On va mettre en scène un certain nombre de points de vue qui sont des points de vue partagés et d'autres qui vont être des points de vue peu partagés. Le contenu de ce qu'il y a sur ma diapo vous intéresse secondairement. Hein, je le mets là pour l'illustration de ce qu'on est en train de faire. Et du coup, on va identifier les problèmes de travail. C'est-à-dire qu'on va partir de le formateur est là pour savoir à quoi ça sert les mettre sur numéraire, et au bout de 6 heures, on en est à se dire, mais les mettre sur numéraire, ils ont quoi comme problème de travail? Qu'est-ce qui leur rend le travail difficile? Et là, je vous propose de m'y arrêter une demi-seconde, parce que ça me semble intéressant. Ils ont des dilemmes de travail. J'en cite un, parce que si vous êtes enseignant, par exemple, tous les maîtres surnuméraires disent c'est très important de faire de la production d'écrit parce que la production d'écrit, c'est difficile pour les maîtres ordinaires et donc on va les aider à faire de la production d'écrit. Mais en même temps, tout le monde dit bah, quand on fait de la production d'écrit avec les maîtres et avec les classes, c'est très compliqué et on a du mal à y arriver. C'est-à-dire, vous voyez bien cette espèce de dilemme. On pourrait se dire, bon bah, on a identifié qu'on doit faire de la production d'écrit, donc on va faire de la production d'écrit, donc on va avoir des résultats. Or, ils se rendent compte que eux-mêmes, en étant maîtres surnuméraires, ils ont des problèmes de travail qui se rapprochent des problèmes de travail des enseignants ordinaires, que tout le monde ici connaît quand il a déjà vu une classe, c'est « Mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire de la production d'écrit avec des élèves ?» Ils vont identifier des questions de métier. Est-ce que le maître surnuméraire, en fait, il travaille plutôt en direction des élèves ou plutôt en direction des enseignants? Et puis, ils vont identifier des obstacles. Il y a des enseignants qui veulent pas qu'on mette les pieds dans les classes, on intervient dans trop d'écoles. Et du coup, ils vont identifier le fait que très vite, c'est très intéressant de travailler entre soi, mais on tombe sur un problème générique de l'analyse du travail, qui est travailler, c'est d'abord travailler avec d'autres. Et en général, quand on a des problèmes de travail, on a des problèmes de travail dans le travailler avec d'autres. Parce qu'il y a des choses qui nous embêtent dans notre travail, qui font que s'il y avait que le service de formation de l'IFE tout seul sur une île, la vie serait magnifique. Mais comme le service de formation de l'IFE doit travailler avec d'autres, alors la vie devient plus difficile. Et les problèmes de travail sont très souvent ça. Ce qui fait que moi, en ce qui me concerne, et plus généralement, j'ai tendance à penser que quand on veut travailler les questions de la formation des enseignants, par exemple, mais puisque vous êtes très majoritairement des enseignants, on est obligé de penser la question à trois niveaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe du côté des apprentissages des élèves? Qu'est-ce qui se passe du côté des gestes professionnels qu'engagent les enseignants pour faire apprendre leurs élèves? Et qu'est-ce qui se passe du côté du pilotage? C'est-à-dire de ce qui est organisé dans l'institution pour que les enseignants puissent organiser des situations qui permettent aux élèves d'apprendre. Vous voyez, dans cette double, triple, quadruple boucle du travail empêché, comme dirait l'autre. Et bien évidemment, je reviens sur ma diapo des problèmes de travail. Vous voyez bien que travailler sur les questions de métier, ça va être aussi travailler sur les questions d'apprentissage et pourquoi les élèves n'apprennent pas et pourquoi c'est si compliqué la production d'écrit. Donc, en même temps qu'on va travailler sur les gestes professionnels, l'analyse de pratique, si on veut utiliser ce mot, mais enfin, moi j'ai pas de prudence excessive des mots, du moment qu'on se mette d'accord, on va aussi travailler sur les apprentissages. C'est-à-dire que c'est impossible d'imaginer qu'on puisse travailler sur les gestes professionnels sans travailler sur les contenus d'apprentissage. Et c'est bien ça pour lesquels c'est difficile. Hein. En ce moment, je vous la fais très courte, mais il y a des débats extrêmement violents dans les différents courants de recherche entre les didacticiens, qui sont centrés plutôt sur l'approche de comment les élèves apprennent, et puis les gens qui sont dans l'analyse du travail, l'ergonomie, etc., où globalement les didacticiens disent aux ergonomes « Non mais vous êtes gentils là, vous nous parlez des gestes professionnels, mais si vous mettez pas le savoir au milieu de la discussion, c'est-à-dire l'objet du travail, vous vous rappelez mon triangle, hein, c'est un autre triangle, mais l'objet du travail c'est faire apprendre. Et donc on ne peut pas parler du travail des enseignants sans remettre en permanence au milieu à la fois le travail des enseignants, mais aussi le travail des élèves. Et du coup, je reviens sur ce triangle-là qui n'est pas celui de tout à l'heure, c'est que la question des instruments qu'on utilise pour travailler. Et vous voyez que j'arrête pas d'en parler des instruments, hein, les instruments de la formation, le PowerPoint, les tableaux, les questionnaires, les listes, les situations. C'est ça les instruments. Il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de situation sans instruments. Il n'y a pas de maçon sans truelle, il n'y a pas de mur qui se monte sans outils, et il n'y a pas de situation d'apprentissage ou de formation sans instruments. Et l'instrument, hein, pour reprendre la définition avec laquelle je serai d'accord, c'est un outil dont on sait faire quelque chose. Parce que moi, si vous me mettez avec une truelle pour monter un enduit, ou si vous me montez avec une clé pour démonter une durite, je n'en fais pas un instrument. C'est un outil, mais moi, je ne sais pas m'en servir. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a un outil qu'on sait s'en servir. Dernière partie de ce que je voulais vous dire, sur la formation, référée à l'analyse du travail. C'est qu'à un moment donné, dans la formation, il y a toujours quelque chose qui vient. C'est la question du prescrit. Vous vous rappelez de mon modèle de début, hein ? Le prescrit, c'est ce qu'on me demande de faire. Eh bien, quand on travaille en formation, on s'aperçoit très souvent que, du coup, on ne cherche plus tellement à revenir au prescrit. Mais au fait, qu'est-ce qu'on nous demande de faire exactement ? Et il peut y avoir, du coup, des malentendus entre ce que les gens pensent que leur demande la prescription, les programmes, le manuel, la procédure, etc. Et ce que je dis est valable dans l'entreprise, hein. Chez EDF, c'est la même chose. À Airbus, c'est la même chose. Si on regarde le prescrit, c'est-à-dire les fiches de poste, les programmes, les lois, les instructions, etc., en général, on se rend compte que la marge d'autonomie, d'initiative et de travail possible est bien plus grande que ce qu'on croit. Donc, du coup, dans notre formation, ça va se continuer de la façon suivante. En fonction de tout ce qu'on a identifié comme étant des problèmes de travail des personnes, les maîtres surnuméraires, les 40 maîtres surnuméraires avec qui on travaille, ont décidé de faire 5 groupes qui vont chacun travailler sur un objet qui les intéresse. Un certain nombre d'entre eux ont accepté d'être filmés, on va conduire avec eux des entretiens et on reviendra avec ces matériaux dans les séances à venir de la formation et on discutera de ces questions professionnelles là que vous voyez beaucoup plus formalisées que dans la première partie de mon exposé parce que c'est le fruit du premier travail de mise au net des problèmes professionnels par les personnes eux-mêmes. Du coup, il me semble que le rôle d'un formateur, d'un accompagnateur, il est d'abord, comme ça a été fait ce matin, de pouvoir engager la controverse professionnelle tout en garantissant la sécurité, en garantissant le cadre sécurisé. Ici, on peut se parler vraiment du boulot. Deuxièmement, si on est en situation de conseil, mais on ne l'est pas toujours, mais si on est en situation de conseil, hiérarchiser le conseil, et là, ça c'est le fruit du travail qu'on mène avec les débutants, parce que c'est un travail important, j'en ai pas du tout parlé aujourd'hui, c'est pas l'objet. Troisièmement, organiser un travail sérieux et d'abord adressé à soi-même, j'insiste, sur quel est réellement le degré de validité de mes propres croyances. Je crois que les enfants apprennent mieux dans ce contexte-là. Eh bien, qu'est-ce que j'accepte de discuter avec un autre collègue qui me dit autre chose que ce que moi, j'ai comme croyance en tant que formateur ? On discutera de ça si vous voulez, mais je pense que ça, c'est un point absolument nodal. Lorsqu'on mène des entretiens d'autoconfrontation à partir de vidéos de travail de formateurs, on se rend compte à quel point les formateurs eux-mêmes se rendent compte qu'une grande partie de leurs actes, de leurs paroles, sont fondées sur ce qu'ils pensent qui est bon dans ce que l'autre dit. Et la manière dont ils caractérisent la pensée entre, d'un côté, les gens qui sont plutôt des traditionnels et de l'autre côté les gens qui sont plutôt des innovateurs, eh bien c'est quelque chose qui, à mon sens, doit être absolument questionné par la formation, parce que à force de dire au métier, eh bien seuls les innovateurs ont le droit de citer, eh bien quelque part est-ce qu'on n'est pas aussi en train de tuer le métier? Moi j'ai une formule là-dessus qu'on est plusieurs à utiliser, c'est en formation, qu'est-ce qui doit être de l'ordre de l'observatoire, du conservatoire des métiers, et c'est pas pour rien s'il y a un conservatoire national des arts et métiers, et qu'est-ce qui doit être de l'ordre du laboratoire? Eh bien, si la formation ne fait plus ni l'observatoire ni le conservatoire des gestes et ne fait plus que la partie laboratoire, ben il y a un risque pour qu'elle change sa fonction. Et donc je cite là Zongzoni, ce travail est d'autant plus difficile que lorsque l'institution dit beaucoup ce qu'il faut faire, mais ne dit plus du tout comment il faut le faire, eh bien, la controverse professionnelle, si elle n'est pas menée, elle tourne à la baston et à la dispute interpersonnelle entre ceux qui disent « mais c'est comme ça qu'il faut faire » et ceux qui disent « non, c'est comme ça qu'il faut faire ». Et enfin, la question des outils, mais j'ai, je pense, suffisamment insisté, qui est… au-delà des croyances, quels sont les outils dont on promeut l'usage, soit pour le métier, soit pour la formation? Alors, j'ai l'habitude de résumer ça par un petit graphique à 5 branches, que je ne ressors pas celui-là à chaque formation, donc une fois n'est pas coutume. Premièrement, on ne construit pas une formation, selon moi, et c'est une assertion discutable, et j'aimerais qu'on la discute, sans partir d'un vrai problème de métier. Une formation qui ne se construit pas sur un problème de métier a toutes les chances d'être une formation qui passe à côté de son objet. Les gens vont venir là en disant « t'es gentil, mais comme tu me parles pas de mon boulot, ou alors d'un truc qui m'occupe 3 minutes et demie sur 100 heures, ne crois pas que je vais m'investir dans ton truc ». Avoir les moyens de lire ensemble le réel pour pouvoir en discuter. Avoir les moyens de connaître le prescrit pour savoir ce qu'on nous demande de faire, ce qui ne veut pas dire que c'est ça qu'on va faire, mais enfin, déjà savoir bien ce qu'on nous demande de faire. Se dire, mais pour faire ça, toi, quels sont les outils que tu utilises? Et quelle est la manière dont tu utilises ces outils, hein? En analyse du travail, on parle d'un mot que vous pouvez placer dans la conversation, ça s'appelle la catacrèse, c'est-à-dire les différentes manières dont les uns ou les autres utilisent en les détournant des outils. Comment est-ce qu'on partage des références, y compris des références théoriques, qui nous permettent de parler de nos problèmes de métier avec des gestes et des mots professionnels? Comment on croise les lectures du monde? Comment on essaye d'aller chercher des modèles, des théories qui fondent notre action? Et surtout, comment on accompagne dans la durée? C'est-à-dire qu'on ne pense pas que la conférence va avoir le moindre impact si derrière, il n'y a pas tout un travail qui va se mettre en œuvre pour accompagner les personnes à partir de leurs problèmes de travail réels. Je vais finir par 2 pages de citations qui vont me permettre de me reposer. C'est Françoise Lantôme, dont on a parlé déjà tout à l'heure, qui travaille beaucoup avec nous dans le cadre du laboratoire ECP, qui est un laboratoire lyonnais éducation, culture et politique, dont nous sommes quelques-uns membres dans cette salle. Et puis, une autre petite citation que je ressors assez souvent. Mais c'est pas grave si vous l'avez pas noté. Si vous l'avez lu, ça suffit peut-être pour, ce qui compte, c'est ce qu'on vit ensemble. C'est pas la trace qui va rester de tout ça dans un mois, vous savez. Si on se revoit dans un mois et que je vous dis, au fait, c'était quoi les 2 trucs importants que j'avais dit? En général, il y a à peu près au moins 1 personne sur 2 qui ne sait absolument plus rien de ça. Je cite là Yves Clos qui cite lui-même Kang Guilhem sur cette question du travail, de la souffrance, de la responsabilité de ses actes. Lorsque on se dit que ce qui arrive dans le travail ne viendrait pas tout à fait de la même façon si on n'était pas là, c'est là qu'il y a du développement. Quant à l'inverse, comme dit Clos, on essaye de s'en sortir en s'en sortant, il y a bien des chances pour qu'on fabrique que de la souffrance. Et comme c'est quelqu'un qui utilise bien les mots, il aime bien jouer avec, ça va mieux à l'écrit. Et du coup, en formation, comme dans tout travail, le plus dur, c'est de se dire ce sur quoi on n'est pas d'accord, pour commencer à essayer de faire ensemble ce qu'on n'arrive pas encore à faire et qui est difficile. Il parle souvent de la difficulté à dépasser la collection d'individus pour arriver à fabriquer du collectif. Mais il dit, pour fabriquer du collectif, il faut oser la controverse, la dispute professionnelle, pour oser dire à son voisin, écoute ça, franchement, c'est pas du boulot.